n'y a rien à faire. La douleur est amère, le bonheur éphémère. Toujours recommencer, l'amour est sans pitié.
Ah, Jean Leloup, l'amour est sans pitié. Méchante bonne toune. On va parler de rupture ce matin parce que c'est l'automne, le mois de novembre. Et vous remarquez, il y en a beaucoup autour de nous. Je ne sais pas vous, mais depuis quelques mois, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est les astres, mais il y a beaucoup de couples qui rompent. Et avec parfois tous les enjeux que ça veut dire. Ça veut dire la difficulté, la douleur, la souffrance. Souffrance pour certains, parfois plus que pour certaines. En fait, c'est différent, la souffrance des hommes versus la souffrance des femmes. Puis j'ai presque l'obligation de vous rappeler d'ailleurs qu'au cours des dernières semaines, on a assisté au procès et à la condamnation d'au moins deux hommes qui ont été trouvés coupables d'avoir assassiné leur conjointe, leur ex-conjointe. Et il y a eu cet homme aussi qui s'est enlevé la vie après avoir assassiné ses deux enfants. Bref, c'est clair que pour certains hommes, la rupture, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est genre, si tu peux pas vivre avec moi, tu peux plus vivre, point, où je vais tuer nos enfants. Évidemment, heureusement, tous les couples ne rompent pas comme ça. Mais il y a toujours une part un peu de douleur. Et ma prochaine invitée vient de sortir un livre qui s'intitule « Rompre avec amour ». Quand je l'ai reçu, je me suis dit « Mon Dieu, est-ce possible? » Marcia Pilote, merci d'être là, Marcia.
Ça me fait tellement plaisir.
Je suis ravie de t'avoir parce que ça fait trop longtemps qu'on s'est vus. Et ce que tu suggères, c'est que c'est possible de rompre avec amour, mais tu ne mets pas de côté du tout la douleur, la souffrance. Au contraire, tu l'exprimes. Et tu dis, et si notre rupture, c'est ton sous-titre, dans le fond, si notre rupture était l'occasion d'apprendre à nous aimer d'abord nous-mêmes.
Oui.
On va partir ça depuis le début. Oui. Raconte-nous un peu. 12 ans de couple.
Oui, je raconte. Moi, j'ai vécu plusieurs ruptures dans ma vie. Oui. J'ai deux enfants de deux pères. Et les ruptures que j'ai vécues, à part celles dont je vais vous parler dans deux secondes, ça a toujours été très facile. Ça s'est toujours fait d'un commun accord. Le désamour était là de part et d'autre. On était rendus comme des cousins, cousines du Lac-Saint-Jean, tu comprends? Fait que c'était pas difficile, ça a pas été déchirant. J'avais des enfants avec ces hommes-là. J'ai toujours eu la garde partagée. J'ai toujours eu un rapport très, très, très amical et cordial. Il y a 13 ans, j'ai rencontré un homme avec qui j'ai fait vie commune. Cet homme-là avait 4 enfants. Je me suis occupée beaucoup, beaucoup des enfants. On avait 6 enfants à deux, un chien, un chalet, une maison.
T'as comme reparti une famille.
Oui, j'ai reparti une famille, je dirais malgré moi, parce que moi, je voulais plus vivre avec un homme, puis je voulais plus non plus une vie de famille. J'en avais déjà même une famille. Et puis, ben cet homme-là, je suis vraiment tombée en amour avec cet homme-là. Ça a été une histoire vraiment extraordinaire.
Passionnelle,
ben,
je comprends.
Ben, pas tant passionnelle que très...
Tu parles de codépendance. Tu dis « j'étais dépendante, amoureuse ».
Oui, codépendante. Ouais. Je vous expliquerai tantôt ce que c'est que la codépendance. Mais ça, la dépendance affective, on a une image d'une personne soumise, qui n'est pas indépendante, puis qui est accrochée à l'autre. Alors, on ne se voit pas souvent comme dépendante affective ou codépendante. Moi, je ne savais pas que je l'étais. Mais ça ouvre la porte à des relations qui se construisent sur des dynamiques d'iniquité, des dynamiques de souffrance. On souffre, mais on s'en aperçoit pas parce qu'on est comme dépendante, puis on a peur que l'autre s'en aille. Fait qu'on fait tout pour le rendre heureux. Moi, ça a été ça, mon pattern. Et au bout de 12 ans, alors que nos enfants n'étaient plus à la maison, puis moi, je me disais, hey, enfin, là, tu sais, on a tellement rushé, puis on a tellement réussi à se préserver des petits moments amoureux. Et là, ben, ça va être notre tour, là, tu sais, ça va être. Mais il s'est passé des choses que je ne révélerai pas parce que je veux pas parler de lui. Je veux parler plus de mon parcours.
Mais il y a eu quand même une cassure. Il s'est passé quelque chose.
Il y a eu une grosse cassure. Il s'est passé des choses assez douloureuses qui a fait que j'ai été obligée de rompre. J'ai été obligée de dire
mon hypothèse, puis tu as le droit de pas y aller, mais mon hypothèse, c'est probablement une infidélité sur laquelle tu es tombée.
Infidélité, puis des mensonges. Des mensonges, puis de l'abus. De l'abus, aucune violence physique ou psychologique, mais... Tu sais, quand on parle de quelqu'un qui a une personnalité de de manipulation, ben moi, j'ai vécu ça. J'ai vraiment vécu ça, mais les manipulateurs ou les manipulatrices, c'est pas des personnes qui se lèvent le matin en disant « Hey, moi, là, je vais manipuler ma blonde ou mon chum. » C'est très sournois, ça, comme dynamique. Ça repose sur une dynamique de personnes qui donne, puis une autre qui prend. Et par amour, il y a plusieurs personnes, des femmes surtout, qui... qui tombe, moi, je dirais vraiment qui tombe en amour, mais qui tombe aussi dans ces pièges-là, de donner au point de s'oublier. Alors moi, après 12 ans de relation, j'ai été obligée de dire à l'homme que j'aimais follement de quitter. Puis ça a été très difficile pour moi, mais il y a quelque chose de très curieux qui s'est passé. Ce jour-là où j'ai eu le courage de dire, regarde, je te demande de t'en aller. Le soir même, je suis tombée en amour.
Oh!
Oui, je suis tombée en amour le soir même.
Avec qui?
Avec moi!
C'est ça, le punch!
Oui, c'est ça. Alors, on peut dire que c'est curieux de dire ça comme ça, mais il y a...
C'est-à-dire que t'en as profité pour te retrouver, en fait.
Ben, j'ai été comme obligée de me retrouver. C'était pour moi la chose la plus paniquante de penser que cet homme-là allait s'en aller un jour. Puis quand on est dans cette dynamique-là, on endure beaucoup, beaucoup de choses pour ne pas voir arriver cela.
Toi, t'avais peur qu'il te quitte?
Écoute, c'est terrible. J'ai honte, hein? Je te dis, j'ai honte de dire ça, là. Mais j'étais, là, tellement accro, là, que c'était comme, je vais tout faire pour te rendre heureux, comme ça, tu partiras jamais. Mais c'est débile, là, tu sais, dans le sens où ça va loin.
Mais c'était inconscient, tu t'en es rendu compte après. Mais pendant que tu vis ça, tu le savais?
Dans une rupture, là, c'est bien intéressant de savoir que quand ça aboutit à une rupture, c'est jamais, ça se passe jamais en 24 heures. Ouais. Hein. Souvent, 3-4 années auparavant, il y a des choses qui commencent à se révéler. Puis, c'est pas qu'on les balaye sous le tapis, mais on fait juste dire, ça doit être la ménopause. Ah, ça doit être la crise de la cinquantaine. Ah, ça doit être... On fait reposer ça sur le dos de quelque chose qui... C'est pas ça du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de regarder la relation telle qu'elle. Puis quand on commence à avoir des signes, souvent, on est incapable de regarder la relation telle qu'elle parce qu'on a peur. Ouais. Moi, ma peur, c'était pas de me retrouver tout seul parce que j'aime ça être seule. C'était que cet homme-là me quitte. C'était la peur de l'abandon. Fait qu'au nom de l'abandon... au nom de la peur de l'abandon, on fait plein de choses qu'on ne ferait pas si on était complètement dégagé et sorti de ce pattern-là. Alors moi, ma rupture, je l'ai vécue pendant un an, cette peine d'amour-là, pendant plusieurs mois, et j'y ai consacré de nombreuses heures, Isabelle, par jour, à écrire là-dessus, parce que moi, c'est mon métier d'écrire. Ouais. Puis, des fois, c'était 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour. J'écrivais, je pleurais, je réécrivais, je pleurais. Puis, j'écrivais pour moi.
Mais les gens autour de toi, comment ils réagissaient par rapport à ça? Ils te voyaient donc focusser là-dessus, pleurer. Donc, quand on pleure, en général, on souffre un peu.
J'étais bien. J'étais bien. Les gens ont été même très surpris.
Mes parents
et mes filles m'ont dit dernièrement, on était certaines que tu retournerais. Que tu retournerais avec lui.
Auprès de lui?
Parce que j'étais tellement attachée et dépendante. Puis, j'ai eu cette déclaration-là de mes parents disant, on est complètement étonnés et impressionnés. Puis, j'ai pris les moyens pour ne pas retourner. Puis, c'est pas parce qu'il a pas fait des tentatives nécessairement, mais j'ai décidé de ne plus le revoir.
Oui, tu l'as pas revu depuis un an?
Non, j'ai pas revu depuis plus d'un an. Puis, c'est un choix. Puis, c'est pas parce que je lui en veux, mais c'est parce que je sais que je pourrais être encore fragile à des belles paroles ou à des belles promesses et tout ça. Et pour moi, ça a été un choix d'amour envers moi-même. Puis, tu sais, quand quelqu'un part...
Mais donc, tu l'aimes encore?
Ben, je l'aime encore. Comme j'aime encore tous mes ex, j'ai aimé ces hommes-là. Fait que moi, je suis vraiment quelqu'un qui... j'embarque pas dans le ressentiment, puis dans c'est un ci, c'est un ça, pas du tout. Je l'aime encore dans le sens où j'ai encore de l'estime pour lui, mais je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais avec la façon dont ça s'est terminé. Ouais. Moi, je trouve que ça se fait pas, des choses comme ça. Puis surtout, moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est pas tant la tromperie et tout, c'est que la personne ne m'ait pas donné leur juste. Ouais. Ça se dit à quelqu'un, je ne t'aime plus. Le désamour, là. Tu sais, moi, là, Isabelle, je me suis
c'est
jamais...
C'est dur à dire.
C'est dur à dire, mais on doit ça aux gens. Ouais. On ne doit pas de les aimer toute notre vie.
Sais-tu pourquoi c'est dur?
Non.
Ma petite expérience m'a appris que c'est dur parce qu'on n'est pas toujours sûr. C'est jamais toujours clair. Autant tu viens de dire, là, regarde, t'es plus avec cet homme-là, t'as pas vu depuis un an, puis tu dis, je l'aime encore comme j'aime encore tous mes ex. C'est difficile de soudainement dire à quelqu'un je ne t'aime plus parce que
soudain.
C'est pas toujours
mais enlève
mais pas
le
soudainement.
Mot soudain.
OK alors on enlève
quand,
soudain.
Quand t'aimes
mais
plus
c'est
quelqu'un,
difficile
là,
de le dire. Ben, oui mais c'est difficile de dire OK je n'aime vraiment plus cette personne.
Ben,
peut-être que tu l'aimes beaucoup moins que ce moins n'est plus assez.
Absolument, sauf que premièrement, quand on dit « il ne me l'a pas dit », c'est faux. Parce que les gens nous le disent avec des gestes. Les gens nous le disent
toi,
avec des gestes.
Toi, tu dis dans ton livre, par exemple, à un moment donné, je voyais bien, il n'était plus dans la relation.
Ben non, ben non. Puis ça, il faut se faire confiance. Quand quelqu'un n'est plus dans la relation, ça veut dire que la personne qui avait l'habitude d'ouvrir les couvertures quand elle le rejoint dans le lit, ben là, elle ne le fait plus, ou la personne ne rentre pas de la nuit, ou la personne... Ben ça, là, il faut comme se faire confiance aussi, de dire... Regarde, tu sais, comme moi, à un moment donné, j'avais trouvé des textos. Puis pas parce que j'avais fouillé dans le cellulaire, mais j'avais trouvé des textos, puis j'étais allée le voir. Puis j'avais dit, regarde, t'as-tu des correspondances avec des femmes? Mais il y a des gens qui vont... Leur réponse est déjà préméditée. Puis ils vont dire, ben voyons donc, puis tout ça. Fait, mais moi, à ce moment-là, là, tu sais, je m'en suis voulu de ne pas avoir pris les faits pour ce qu'ils étaient. Puis je trouve que les femmes, mais les hommes aussi... C'est comme si on veut se négocier quelque chose, puis on se dit, ben non, c'est vrai, oh, ça doit être ça, oh, c'est moi. Puis souvent, ce que je trouve bien difficile, moi, ça, j'ai pas vécu ça, puis je suis très, très, très contente de ça. C'est lié au fait que j'ai un 30 ans de vie intérieure et de démarche de thérapie en moi. Je ne me suis pas sentie responsable et je ne me suis pas remise en question. Puis ce que je vois autour de moi...
Dans l'amour ou dans la relation que vous aviez.
Oui, c'est comme...
Tu disais, c'est pas de ma faute, là, finalement.
Ben, c'est pas de ma faute, puis c'est pas de sa faute, puis c'est pas de notre faute. C'est juste que l'amour n'était plus là, puis c'est bien correct que l'amour soit plus là. Maintenant, ce qui est très, très pernicieux, c'est quand les femmes...
Ou les hommes aussi.
Les hommes, parce que les hommes aussi, les femmes. Surtout les femmes, c'est quand la personne part, parce qu'elle ne nous aime plus.
Oui.
Il ne faut pas que la laisser partir avec notre valeur. Notre capacité d'aimer. C'est ça l'erreur. C'est que la personne part, puis là, on dit, ah, je ne pourrais plus jamais aimer.
Mais les gars, les hommes, ils sentent ça, là.
Oui, ils ressentent ça.
Les gars, ils disent, c'est pas juste, je ne pourrais plus jamais aimer, c'est la fin de ma vie. Je n'aurai plus jamais d'amour. Je ne pourrais plus jamais aimer quelqu'un. Je n'aurai plus jamais quelqu'un qui m'aime. Il y a beaucoup de plus jamais. Je pense qu'on ne le vit pas pareil, mais la notion d'abandon est très forte chez l'homme.
Oui.
Il y a beaucoup de gars. Puis d'ailleurs, je vais vous donner le numéro de téléphone, puis je vais vous donner la parole à vous qui nous écoutez en ce moment. Vous avez écouté le témoignage de Marcia Pilote. Elle vient de publier Rompre avec amour. Puis on pourra en parler pendant une semaine de ton livre parce que c'est tellement chargé de plein de choses.
C'est pas un guide, hein? C'est un journal intime.
C'est ton expérience, c'est ton vécu, mais ça nous ramène à nous. Puis que vous soyez en train de rompre ou pas. Moi, je suis pas en train de rompre, puis regarde, ça. Je trouvais ça intéressant de voir ce que toi, comment tu avais vécu ta relation aussi, parce que tu parles de la relation que vous avez eue pendant toutes ces années. Donc, ça, c'est sûr que c'est confrontant, ça te fait réfléchir. Moi, je vous pose la question, à la lumière de ce que Marcia vient de vous dire, est-ce que si vous avez déjà vécu une rupture, puis c'est le lot d'une personne sur deux qui est en couple, vous l'avez peut-être vécu, puis tu sais, t'as plus qu'un couple dans la vie, là. C'est rare les gens qui passent la vie avec tout le monde. Avec une personne, tout le monde a au moins un amour. Peut-être deux, trois. T'sais.
Si vous ne l'avez pas vécu, ben ça s'en vient.
Ça s'en vient. Faites frapper un mur. Préparez-vous. 514-790-9850. Sans frais partout. Vous faites le 1-866-790-9850. Croyez-vous qu'on peut rompre justement dans l'allégresse, peut-être le mot est fort, mais sans trop de souffrance, sans trop de douleur et surtout en se préservant un peu, sans en vouloir beaucoup à l'autre, au point de vouloir y enlever la vie. Mais ça, évidemment... On n'espère pas aller là. On vous écoute tout de suite après. C'est pas facile, la rupture. Je suis en compagnie de Marcia Pilote qui publie justement « Rompre avec amour ». Et si une rupture, c'est l'occasion d'apprendre à s'aimer soi-même. Benoît, vous avez vécu ça, la rupture?
Oui. Moi, j'ai vécu le grand amour et le grand A. Mais la rupture, ça a vraiment été difficile. Puis c'est moi qui ai mis un terme. Mais moi, si j'ai un conseil que je peux donner, c'est que peu importe la rupture que tu vas avoir, la personne après qui va être dans ta vie, tu vas être plus en amour. Parce que tu vas savoir plus qu'est-ce que tu recherches. Tu vas savoir, écoute, pour de vrai, tu peux juste avoir mieux. Tu peux pas avoir moins.
Ouais.
Mm-hmm. Mais ça, Benoît, là, je pense, moi, qu'avant de rencontrer quelqu'un d'autre, il faut être capable de se rencontrer. Se rencontrer, ça veut dire prendre le temps de démêler tout ça, prendre le temps de se débrancher de l'autre et du ressentiment qu'on peut avoir, puis se brancher sur soi, puis regarder la peine. Elle vient d'où, cette peine-là? Tu sais, oui, elle vient de la rupture, mais il y a une peine aussi qui vient de plus loin encore. Il y a quelque chose qu'il faut comme adresser en nous. Puis il faut profiter. C'est Guy Corneau qui disait ça, Isabelle, qui disait... Profitons des ruptures puis de nos enjeux amoureux dans la sphère intime pour en apprendre sur nous-mêmes. C'est l'endroit où on peut le plus profiter de ce que l'on vit pour avancer puis évoluer à travers tout ce qu'on a à régler dans la vie. Ouais. C'est la sphère amoureuse. Donc, oui, rencontrer quelqu'un d'autre, pas de problème, mais rencontrons-nous avant.
Benoît?
Ouais.
Qu'en penses-tu, Benoît?
Ben écoute, c'est sûr que si on se connaît soi-même, c'est plus facile d'avancer, ça c'est clair. Mais écoute, je pense que la plupart des gens se connaissent pas, honnêtement.
Effectivement.
Ouais, c'est ça, c'est vrai. Bon, ça, ouais. Merci Benoît. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Ben moi, c'est ma blonde qui veut me quitter. Je trouve ça difficile. Ça fait plusieurs fois qu'elle me dit m'en aller, mais je reste attaché à elle, j'ai la difficulté, j'ai vraiment la misère.
C'est en ce moment que vous le vivez, là, Jean-François.
Oui, c'est en ce moment. Là.
Et votre blonde vous dit, faut que tu t'en ailles. J'imagine qu'elle vous a dit d'autres choses avant. Là. Est-ce que vous avez parlé de ça, du fait que peut-être...
Ben,
votre...
Moi, j'ai fait des thérapies pour essayer de corriger des problèmes que j'avais. J'ai été consulté pour être un meilleur chum. On est même été voir un congrès, un colloque de Mac Gervais. Lâcher prise, fait que j'ai fait comme 3 thérapies à Mac Gervais, plus 2 autres, fait que j'ai essayé de corriger les défauts que j'avais, mais même hier soir, j'ai essayé de parler et tout, mais elle était têtue, elle veut pas.
Est-ce que je peux vous poser une question, peut-être indiscrète? Oui. Qu'est-ce qui fait que, avec le fait que votre conjointe vous dit qu'elle veut plus continuer, puis bon, vous mettez beaucoup d'efforts là-dedans. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas capable d'accepter ça? Je comprends que vous l'aimez encore.
L'histoire n'est pas finie. Ouais, je trouve que l'histoire, elle ne devrait pas finir immédiatement. Là. On devrait prendre plus de temps pour...
Oui, pour vous, l'histoire n'est pas finie, mais pour elle, l'histoire est finie. C'est ça un peu qui est déchirant, c'est que... Tu sais, il y a 2 personnes dans un couple. Pour elle, elle vous le dit clairement que c'est terminé. Puis, fait qu'il faut, je pense, je crois, puis j'ai pas de conseils à vous donner du tout, là. Mais si j'étais votre amie, là, puis on allait luncher, là, je vous dirais que c'est désolant, c'est plate, c'est triste,
c'est... parce que elle veut me garder pour, comme partenaire sexuel, des affaires comme ça, faire les activités encore ensemble, mais pour vivre ensemble, elle veut pas me garder, mais c'est... C'est pas ça que je cherche. Là. C'est une bonne femme. Là. J'ai eu d'autres amis, de filles, j'ai eu d'autres blondes avant, là, à l'âge que j'ai. Mais c'est vraiment elle que, je sais pas, c'est un coup de foudre. C'est un amour sincère avec elle. Là. Je sais, j'ai fait des gaffes au début, tout ça.
Puis après, Jean-François, ça, c'est peut-être pas une bonne idée non plus de sa part. Tu sais, quand tu romps avec quelqu'un, tu dis va-t'en, ben, tu continues pas d'avoir des rapports sexuels avec. Là. À un moment donné, il y a peut-être un peu. Il faut être responsable des deux bords. Merci
moi,
beaucoup.
Jean-François, je veux juste terminer en disant je vous souhaite de connecter à vous-même puis vous aimer assez vous-même pour ne pas perpétuer quelque chose dans lequel il y a de la souffrance puis que c'est clair qu'il y en aura encore dans le futur.
Merci Jean-François. Bonne chance. Paul, bonjour.
Oui, bonjour. Sujet très interpellant pour moi ce matin. D'ailleurs, j'envoie mes meilleures pensées à la personne précédente parce que ce genre de souffrance, c'est terrible. Moi, je vais vous résumer une histoire de 15 ans en 30 secondes, mais j'avais ma conjointe depuis l'école secondaire. Et puis, c'était toujours une relation assez toxique, chat et chien. Là, ça a pris tout le courage, et on a cassé plusieurs fois ensemble. Mais ça a pris tout le courage pour le faire, et j'ai toujours... C'était presque, on pourrait dire, comme une mauvaise drogue. Et puis, à la fin... vraiment, vraiment. Et puis, c'était pas dû à un problème de codépendance ou tout ça, parce que j'avais même consulté, je dis est-ce que j'ai un problème? Ceci étant dit, la morale de l'histoire, moi, ce qui m'a donné le courage, enfin, là, c'était avoir un fils avec elle. Et quand il avait 9 mois, là, c'était comme une épiphanie. J'ai dit, non, finalement, si moi, j'ai pas le courage de le faire, que je le fasse pour mon fils au moins, la façon qu'elle me parlait, etc. Puis, c'est pas parce que c'est une mauvaise personne. On est juste deux gens différents qui n'étaient pas compatibles. Et puis, ouais. Ceci, on dirait que je l'ignorais pendant des années. Et puis, je me le cachais. Je le savais, mais je me le cachais. Mais avoir eu mon garçon, et je sais que c'est vraiment pas la solution là, pour ça. C'était pas la solution voulue de toute façon. Mais quand on l'a eu, ça m'a sauvé. Et c'est ça qui m'a donné le courage d'enfin lui faire face et lui dire, écoute, je ne peux pas changer. Et les choses de moi que tu n'aimes pas ou les choses que tu aimes, je peux pas les changer. Donc,
et ça, vous avez tellement raison, hein, Marcia? Ben oui. Je repense à Jean-François qui vient de nous dire, là, elle me reprochait certaines choses. Puis après, c'est sûr que si, puis je connais pas Jean-François, puis mais c'est vrai que des fois, tu as un partenaire, il y a un problème d'alcool, il y a un problème de rage, il y a un problème de jeu. Tu peux avoir bien des problèmes d'envie, de pas être capable de communiquer. Mm-hmm. Puis là, ton conjoint te dit, ben écoute, peux-tu faire des efforts là-dessus? Tu fais des efforts, t'essayes. Mais est-ce qu'on peut vraiment changer? Non, puis plus on vieillit, plus peut-être que c'est difficile de changer vraiment.
Mais faut Paul aussi
nous
voir
dit,
qu'est-ce qu'il
on regarde, je suis de même.
Ouais.
Fait qu'il regarde. Puis ça, c'est vrai que des fois, puis on dit que c'est plus les femmes que les hommes, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a plus de femmes qui ont tendance à vouloir que leur chum change.
Mais c'est pas tant ça, c'est qu'il y a plus de femmes qui vont s'engager dans des relations avec quelqu'un qui a déjà un problème. Ça, c'est documenté, ça. Des femmes qui veulent sauver l'autre.
Ouais.
L'homme est alcoolique ou l'homme a un problème de jeu ou quoi que ce soit, mais moi, là, je vais tellement l'aimer là que je vais le sauver.
Pour qu'au bout, ça, c'est au début, puis au bout d'un an, deux ans, trois ans, c'est comme, c'est devenu...
Ben,
c'est plus un... Tu veux plus être la sauveuse, tu veux...
Tu deviens la victime,
voilà.
En quelque part. Puis vous avez dit quelque chose...
Paul,
vous avez parlé de drogue. Elle était ma drogue. Ben, c'est triste, c'est très attristant de voir que encore aujourd'hui, l'amour repose sur cette dynamique-là de j'ai besoin de ma dose, puis donne-moi mon fixe. Mais quand on va apprendre à s'aimer davantage... Mais on n'aura plus besoin que l'autre soit notre drogue.
Ouais.
On va s'approvisionner nous-mêmes à même notre amour propre.
Regarde, Marcia, toutes nos lignes sont pleines. Je pense qu'on aurait pu continuer une bonne demi-heure là-dessus, mais Alex Nevsky est pas loin. Alors, merci à tous ceux qui nous ont appelés. On reviendra sur ce sujet. Tu reviendras nous en parler, Marcia, parce qu'il y a tellement de choses dans ce livre. Je vous le recommande, Rompre avec amour. Et si une rupture était l'occasion d'apprendre à s'aimer soi-même, l'auteur, bien sûr, c'est Marcia Pilote. Vous connaissez ses Rendez-vous avec Marcia. Nous avons 3 livres à faire tirer. Alors, vous pouvez nous laisser vos noms. Vous téléphonez au 514-790-9850 et ça en ferait 1-866-790-9850. Merci beaucoup,
Marcia.
Ça me
fait vraiment plaisir.
Tout de suite après la pause, en entrevue sans filtre. Oui, il est très coloré. Alex Nevsky est avec nous.